On écoute immédiatement donc Manuel Roux, qui est doctorant en sciences de l'éducation. Et son travail de thèse consiste actuellement à user des outils de la sociologie pour mieux cerner, ou plutôt délimiter peut-être, le champ punk. Mais sa discipline, oui, c'est bien les sciences de l'éducation. Et on sait qu'il y a toujours, durant la thèse, des périodes de défrichage qui sont utiles pour le rendu d'un travail fini et construit. Voilà. Bien, on t'écoute, Manuel. Alors, peut-être juste dire l'intitulé, même s'il est noté au tableau, enfin, sur l'écran plutôt. Le champ punk, donc, point d'interrogation. Réflexion épistémologique et méthodologique sur la définition d'un objet illégitime et insaisissable. Voilà. Voyons.
Oui, déjà, j'ai mis illégitime et aussi insaisissable. Ça fait en référence à ce que a dit Luc et Solveig aussi sur le fait que plus on avance et plus on a des difficultés à essayer de le délimiter. Et moi, pour ma recherche, bah, aussi, j'ai tout intérêt à le délimiter pour après pouvoir en parler, quoi. Et il y a aussi illégitime pour rappeler aussi le fait que c'est un objet qui n'est pas forcément facile à y entrer, à discuter avec les acteurs. Souvent, on peut remettre en question le discours académique, etc. C'est pour ça que j'ai choisi ce sujet-là. Donc, je vais vous en parler. Alors, tout d'abord, pour introduction, comme tu as dit, je suis en sciences de l'éducation, je suis doctorant au laboratoire CEDS à Bordeaux, Culture et Diffusion du Savoir. Je suis co-dirigé par Solveig et Luc. Mon sujet de thèse, peut-être qu'il changera, mais en tout cas, c'est pour l'instant réussir en marge des institutions ou la question de l'intelligence punk. C'est étude des carrières sociologiques punk et des nouvelles formes d'épanouissement personnel. Et ma recherche est une recherche anthropologique. Et pour l'instant, elle repose sur 30 entretiens semi-directifs. Là, pour les besoins de la communication, j'en ai utilisé 14. Je vais vous expliquer ça. Et une ethnographie de 3 tournées en Europe, que là vont pas me servir pour cette communication, mais c'est pour au moins vous dépeindre là où j'en suis au niveau de ma thèse. Alors, j'étais très ambitieux parce que quand j'ai répondu à l'appel de Luc et Solveig 3 semaines avant la communication, j'ai voulu, en fait, j'avais la volonté de faire une géométrie de l'espace social, d'essayer de le schématiser à travers des jeux de position dont je vais vous en parler. J'ai pas réussi à le faire parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était un travail fastidieux, mais par contre, j'ai fait certaines choses et je vous propose là, au lieu de parler de résultats, de vous proposer de une réflexion autour des méthodologies et de comment se saisir justement de ce terrain, quoi. Alors, le punk, qu'est-ce que c'est ? Alors là, j'ai repris le livre de Pierre Rabou et de sa préface écrite par Jérémy Gilbert, pardon, où il explique qu'en 40 ans, personne n'est arrivé à le définir, le punk. Donc ça rejoint un peu ce qu'on a dit en début de journée. Déjà, d'un point de vue musical, on pourrait dire que c'est des nuances de rock, mais la délimitation des styles, on a dit qu'il y en avait de plus en plus apparemment. Ça devient assez compliqué, puis aussi on se rend compte que c'est assez poreux. Les influences, on les prend un peu de partout, que ce soit du milieu électronique, que ce soit du métal, comme on en a parlé. Enfin bref, il y a un peu de tout, même peut-être du rap aussi. Les Bad Brains, etc. C'est un bon exemple. Bon, je vais pas tout faire tout ça, chacun sa culture. On a essayé aussi de la définir comme une sous-culture. Déjà, moi, ça me plaît moyen parce que ça induit un jugement de valeur. Déjà, jugement de valeur en science, voilà. Et d'autant plus que c'est un mouvement qui a accédé aussi à des hautes instances de légitimation culturelle aussi. On en a parlé à la télé. Aujourd'hui, il y a des projets d'études qui parlent de ça. Est-ce qu'on peut vraiment réellement parler de sous-culture alors que... y a même des personnes, du moins dans mes enquêtés, qui viennent du milieu punk et qui sont aujourd'hui dans des postes de pouvoir, qui sont représentants culturels au ministère, etc. Donc voilà, ça on peut questionner ça aussi, le principe de sous-culture. Mais aussi la question du DIY et de la question de l'indépendance et de l'authenticité, mais par rapport à qui, à quoi, comment, ça on en a déjà parlé, l'authenticité comme une fin en soi, ça reste à questionner. Et puis en plus, que dire des groupes qui sont intermittents, mais aussi qui en même temps ont leur propre structure, donc qui ont de l'argent de l'État, mais en même temps qui ont leur propre structure, sinon ils ne pourraient pas diffuser leur musique, que ce soit les labels. On pourrait dire qu'ils sont semi-do-it-yourself. Bon, on voit bien que ça n'a pas de sens. Et aussi, où est-ce qu'il est né ? Ben, c'est pareil, là, personne ne peut réellement le dire, même si c'est peut-être imposé en Angleterre. Ben, voilà, il y a eu le festival de Mont-de-Marsan, le premier festival punk. Bon, enfin, voilà, donc on ne pourrait pas dire que c'est un mouvement qui est foncièrement anglais. Donc voilà, il y a un peu une difficulté, en fait, aussi, pour en discuter, parce que tout le monde a un peu son avis là-dessus. Et comment ne pas tomber aussi dans des jugements de valeur où chacun se dirait « Non, le punk, c'est ça. Non, le punk, c'est ça. Moi, je connais, etc. » Chacun a sa propre culture. Chacun a aussi sa propre histoire vis-à-vis de ça. Donc, bon. Enfin, est-ce que c'est un phénomène culturel qui est en rupture à un contexte ? Bon, pour moi, je trouve ça déjà plus intéressant. Mais il y en a eu d'autres, des phénomènes comme ça. Donc, du coup, comment le délimiter ? Voilà, toutes ces questions-là sont un peu au centre de notre recherche et c'est ce que, du coup, j'essaye avec la méthodologie que je vais vous proposer d'essayer de délimiter. Puis tout simplement, voilà, il faut que je délimite ma recherche pour pouvoir parler aussi de ces carrières punk, comment ces carrières peuvent, comment dire, les stratégies des acteurs pour justement construire ces carrières-là. Donc, bon, mais déjà, la méthodologie, c'est aller sur le terrain. Alors, moi, je le rappelle, je suis acteur, musicien aussi de cette scène-là. Donc forcément, pour moi, aller sur le terrain, c'est peut-être plus simple que pour d'autres personnes qui sont peut-être des profanes. Mais du coup, ce que je propose, c'est de faire des observations, d'aller à des concerts punk, qui se disent punk, et puis de rencontrer des gens, de discuter, de faire des entretiens et des observations, et aussi pratiquer, peut-être organiser des concerts. Donc forcément, on rentre dans des liens avec les gens, on rencontre des personnes, on interroge les personnes, qu'est-ce qu'ils font, etc. Et quand on passe ces entretiens-là, du coup, on essaye de savoir, voilà, que font-ils, comment et pourquoi. Et une fois que, on a posé ces questions-là et qu'on a observé, on peut faire ce genre de schéma très coloré. Où en fait, on arrive à un petit peu schématiser. Alors bien sûr, là, c'est pas exhaustif. J'ai pas parlé des labels, etc. J'ai pris 14 de mes entretiens, encore une fois, que là, j'ai plus réussi à avoir. Mais le but, c'est pas d'être exhaustif. Le but, c'est de montrer les mondes de l'art, un petit peu au sens de Baker, c'est-à-dire les liens d'interdépendance qui peuvent se créer pour que, justement, le punk, la musique punk puisse exister. Et d'ailleurs, ce que j'ai pas dit avant, c'est que il faut faire un choix. Le premier choix que j'ai fait, c'est de pas forcément m'intéresser à l'esthétique en tant que telle comme entrée ou, je sais pas, une posture punk. Je m'intéresse à la production culturelle, la production de la musique, comment la musique peut exister, en fait. Donc, je reste autour de la bande-son. Et donc là, je me suis intéressé plus particulièrement, du coup, aux salles de spectacle pour voir un petit peu comment ça s'organisait un petit peu les salles de spectacle. Donc, je fais un zoom sur mes enquêtés que j'ai choisis. Du coup, on se rend compte que les salles ont des caractéristiques assez précises. Donc, que ça soit la jauge des publics, qui sont différentes en fonction des salles, mais aussi des prix des places de concert. Bon, alors là, je fais une moyenne assez rapide. Ça se veut pas rigoureux, mais c'est dans le sens où on voit bien que dans la plupart des concerts, il y a des différences de prix. Donc du coup qui est aussi en fonction des salles quand même tout de même, en fonction de la capacité des salles. Et aussi on se rend compte aussi que les salles aussi ont un rapport avec l'État. On comprend que ces rapports qui sont entretenus avec l'État, donc que ça soit au niveau des subventions, et d'ailleurs toutes les salles, pour parler des SMAC, ne sont pas subventionnées de la même manière. Il y a une espèce de concurrence autour des subventions. Et donc on comprend que l'authenticité et l'autonomie est complexe. Car elle est compliquée en fait à définir comme une fin en soi pour définir le punk en fait. Par exemple, parce que si on dit que par exemple le punk c'est être totalement autonome, l'exemple de ces salles de concert associatives est un bon exemple parce que s'ils n'ont pas de rapport avec l'État, eh bien tout simplement de bons rapports avec l'État, s'ils ne discutent pas ensemble, s'ils ne font pas comprendre aux personnes du ministère ou de la mairie du moins que ben justement il y a une réelle nécessité à ce qu'ils soient là, ils ont une mission culturelle, etc. Et ben justement, ben ils n'ont pas fait avant, ils ont pris un arrêté municipal pour essayer de les dégager, quoi. Donc voilà, donc on se rend compte que l'autonomie aussi, ben c'est pas forcément une très bonne entrée pour définir le punk. Et en fait, on se rend compte aussi que à travers cette citation, que alors là, c'est un peu tronqué, je suis désolé, moi je vais vous la lire. Ouais. Je prends l'exemple, là pour parler d'une des personnes qui est directeur dans une salle associative de Bordeaux. Je prends l'exemple de Bordeaux, il y a des petits cafés-concerts qui font 40-50 personnes, tu en as plusieurs, tu as plusieurs SMAC et des grosses salles qui font 400 jusqu'à beaucoup plus, mais au milieu de ça, tu as rien. Sauf que tu as beaucoup de groupes qui ne peuvent ni tourner sur les petits paliers de 50, ni sur le gros palier des 400 ou plus. Il y a une scène entière qui repose sur ces salles de cette taille-là, parce qu'il y a un circuit en Europe, en tout cas, tout est hyper développé, de petites salles, de squats, et qui tiennent, et il y a des milliers de groupes qui ne pourraient plus tourner si ces salles n'existaient pas. En fait, à travers ce que je vous ai montré, on se rend compte qu'il y a un réel marché, où chaque position des individus, là en l'occurrence c'est les salles de concert, sont dépendantes en fait des caractéristiques structurales des autres, mais aussi à des demandes particulières, que ce soit des groupes comme on vient de le montrer, ou même du public. Alors du coup, là on se rend compte qu'on a un problème épistémologique, parce que autant avec cette approche qu'on pourrait qualifier d'interactionniste, où on essaye de voir les liens qu'il y a entre les personnes, les liens d'interdépendance qui se créent avec les personnes, entre les acteurs, on dessine des mondes de l'art. Mais cette mise en relève de ces réseaux questionne le principe d'autonomie comme une fin en soi pour définir le punk, comme je l'ai dit, puisqu'on voit que le punk sont en interaction au moins avec des salles pour jouer. Et certes, entre structures considérées comme indépendantes, mais aussi avec des structures subventionnées et même des structures que l'on pourrait considérer comme des annexes de l'État, des mairies, des bureaux ministériels, etc. Mais l'analyse en fait de ces interactions, qu'elles soient symboliques ou physiques, ne permet pas de comprendre profondément les principes qui régissent leurs modalités en fait, de ce qui structure et qui actualise en continu ces interactions. Donc la mise en place d'une nouvelle méthodologie, qui cette fois une méthodologie de traitement des données, est importante. C'est une méthodologie, on va rechercher des positions. Les positions entre eux, dans des formes de rapport aux autres. Alors, je vais vous montrer un petit peu rapidement ce que j'ai fait, pour juste que vous compreniez de façon un petit peu plus... En fait, ce qui s'est passé, c'est que à gauche, on le voit pas, mais c'est les sujets que j'ai interrogés. Et ensuite, j'ai essayé de catégoriser en fait les rapports qui sont entretenus entre acteurs, en fait, si vous voulez, entre acteurs de la scène. Et en fonction de ces sujets, de ces principes de rapport, j'ai essayé de catégoriser en fait plein de positions, mais sauf qu'en fait ça fait un tableau Excel qui est énorme et j'ai voulu classer ces positions là, mais je me suis rendu compte que c'était un travail tellement fastidieux, je pourrais pas le remplir, et puis même j'ai eu de grosses difficultés aussi à les classer en fait. La taxinomie, c'est un truc que j'apprends en ce moment et qui est un peu difficile. Je vous montre ce que j'ai tenté de faire et ce que je vais continuer à tenter de faire. Donc du coup, de catégoriser ces positions et d'analyser ces jeux de positions, et aussi du coup de les modéliser, chose que je n'ai pas faite encore, mais ça va arriver. Alors, j'ai parlé du marché du coup des salles de spectacle à Bordeaux, mais maintenant je vais vous parler un petit peu de ce principe de marché pour des groupes. Et c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile à essayer d'objectiver, puisque c'est des jeux de position qui sont difficiles à mettre en exergue parce qu'elles ne sont pas de l'ordre structural. Et donc j'ai cherché à modéliser des interactions de la position des musiciens en rapport avec des positions de salles de spectacle. Et en fait, on se rend compte qu'il y a, entre les musiciens, les quatre musiciens que j'ai pris justement des musiciens avec des positions qui sont assez antagonistes. Pourquoi des musiciens intermittents, pourquoi il y en a qui ne sont pas intermittents, qui sont non professionnels, pourquoi il y en a qui ont accès à des tourneurs et à des SMAC, pourquoi il y en a qui n'ont pas accès à des SMAC, etc. On se rend compte qu'il y a des positions qui sont clairement différentes. Et là, ce qui est intéressant aussi pour voir qu'il y a un réel, marché aussi au niveau des groupes, c'est à travers le regard que posent les promoteurs pour essayer de placer ces groupes-là. Donc un promoteur nous dit, on voit la différence des mails, la notoriété des groupes, de suite on commence à les caser en fait, à caser la valeur du groupe et la notoriété du groupe. Et il y a des groupes qui jouent tout le temps, les Birds in Row, les Tundra, c'est des groupes qui ont toujours un public. Des petits groupes coup de cœur qui vont rapporter grand max 20-30 personnes, mais on va rester DIY, parce qu'ils méritent d'être produits. Mais c'est aussi un groupe qui a de l'actu. Il commence à être diffusé, les gens commencent à en parler. Il faut choper maintenant le poisson. Pour l'instant, il ne faut pas demander des prix exorbitants. Les gens, ils veulent les voir, il faut y aller. Le fait de programmer des groupes, ça nous permet d'avoir une vitrine, d'avoir une autorité supplémentaire pour alimenter des petits concerts et être crédible. Alors là, c'est assez intéressant, du coup, ce qu'il dit. C'est que, du coup, pour le coup, en fait, notre tableau nous a permis d'interroger la position, du coup, de ces promoteurs en rapport avec ces groupes. Là, c'est ce qu'on vient de faire. Et c'est intéressant parce que ça dessine un système de valeurs qui est à l'œuvre et qui permet à ces premiers de collaborer, en fait, avec eux. Plusieurs choses sont intéressantes. Là, on voit bien qu'il y a un système de valeur, combien coûte un groupe d'un point de vue économique. On investit aussi dans un groupe. Il y a un système aussi de justification qui est autre que économique et qui questionne aussi du coup, cette axiologie qui est mise en place derrière ce système de justification et qui a un système de valeur qui serait plus symbolique. On va gagner en crédit à faire jouer des petits groupes. Et alors, du coup, pour la position de ces groupes, pour revenir à ces groupes, il y a aussi quelque chose qui a été... intéressant. En fait, j'ai commencé à catégoriser deux rapports différents de position. C'est deux rapports entre deux individus, enfin deux sujets qui vont être, par exemple, des rapports qui sont unilatérales et des rapports qui sont croisés. Les rapports qui sont croisés, souvent, ça va être des groupes qui ont sont sur un même niveau d'égalité, où ils peuvent se croiser, ils peuvent justement se regarder, se dire non, toi t'es punk, toi t'es pas punk, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que, bon, alors là j'ai pris deux exemples concrets et assez antagonistes aussi. Il y a deux positions du coup, chez ces deux groupes punks. Il y a une position qui est radicale et qui est une fermeture au champ, avec une entreprise de moralisation. Donc là, je vais vous citer ce groupe-là. On parlait avec les gars de Chaviré. Ce qui me dérange le plus dans le punk hardcore, c'est les groupes qui n'ont rien à dire ou rien à porter. Mais ce sont les groupes qui prétendent avoir quelque chose à dire ou à porter pour soigner leur fonds de commerce, d'un point de vue symbolique. Et cette justification, c'est on joue devant du monde, comme ça on porte un discours auprès du plus grand nombre, ce qui est faux. Le but du jeu, quand tu grattes un petit peu, c'est de jouer avec les groupes qui te plaisent et pour jouer devant le plus grand nombre, avec toujours cette question calée dans le coin du crâne, miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est le plus beau ou la plus belle. Et une autre posture, du coup à l'inverse, et qui est une posture un petit peu de reproche d'entre-soi par rapport à ce premier groupe qui lui a reproché de jouer au Hellfest, qui disait « Je pense que c'est bien gentil de faire un groupe engagé, mais si tu tournes pas, quand est-ce que tu en parles, du coup de ces valeurs qui sont portées par le punk ?» Ça me fait penser à un truc justement où de R de 9/11, donc c'est la personne dont je parlais avant, il nous avait taillé avec Bird in Row parce qu'on jouait au Hellfest. Et nous, ce que B dit au micro pour sur nos morceaux dans un squat en Allemagne, au Hellfest, devant 5000 personnes, il dit exactement la même chose. Donc on voit que là, il y a deux postures qui sont totalement différentes et qui sont une, du coup, de fermeture au champ et du coup de radicalisation, on va dire, militante, on va dire, et d'autres d'ouverture au champ, et c'est ce groupe-là, d'ailleurs, Bird in Row, joue dans des smacks, a signé sur le plus gros label indépendant, etc. Là, je voulais vous montrer aussi une autre citation d'un directeur de smack à Bordeaux, qui parle justement de... qui met en exergue cette volonté d'authenticité pour justifier sa position, comme les deux autres l'ont fait. Notamment, on regarde tout l'alternatif. S'il n'avait pas succombé pour partie aux sirènes du business et du capitalisme tout simplement, on n'en serait pas là. Faisant le constat de cette subversion, je pense que nos lieux, c'est-à-dire nos fameuses smack pour lesquelles je me suis battu et je me battrai encore, deviennent de vrais lieux d'art et d'essai. Mais d'un autre côté, pareil dans ce même entretien, c'est là où justement je ne me suis pas fait que des amis de ce côté-là, du côté squat, je parle en France, chien, etc. c'est du folklore. Il faut que jeunesse se passe, normal, effectivement, c'est une image. Il y a donc tout un tas de trucs qui étaient autour de cette espèce de romantisme, mais tout ça, c'est du folklore quand même, et c'est ce que je te disais tout à l'heure. Pour moi, ce qui convenait de dire, de faire, c'est autour d'une vraie structuration de nos histoires. Donc ce que je tenais mettre là en évidence, c'est un paradoxe dans un même discours. Et que ce paradoxe dans ce même discours pourrait, tu vois, là c'est une supposition que je fais, témoigner justement d'une position dominante dans un champ, en fait. Du coup, parce que d'un côté, on justifie sa position, mais d'un autre côté, on naturalise le fait que d'autres sont sur des positions qu'on pourrait considérer dominées, qui n'ont pas accès à des SMAC, justement pour dire, ben non, ces mecs-là, ils sont dans un certain forme de folklore, et ou au mieux, enfin, ils ne veulent pas entrer dans ces fameux SMAC. J'ai rajouté ça il y a 5 minutes, c'était pour mettre en lien un petit peu avec ce qu'on se disait avec la communauté, enfin la communication de Bordeaux. Notre entretien que j'ai passé avec une personne qui travaille, enfin deux personnes qui travaillent dans le milieu associatif et qui parlaient de ces SMAC de Bordeaux, ces SMAC d'ailleurs qui nous accueillaient notre communication. C'est vrai que l'ancienne génération, pour moi, c'est un fantasme de ce passé un peu glorieux et foufou de leur jeunesse. Je pense que ces gens-là n'ont pas suivi vraiment l'évolution. À notre époque, des gens de notre milieu qui sont morts, j'en connais des dizaines. Ce n'est pas parce que j'en connais plein comme ça que j'ai envie de laisser la chose se faire. Et c'est ce qu'ils n'ont pas suivi, ces gens-là, et c'est que maintenant, on identifie la violence maintenant au propos de la violence psychologique. Tu vois, les mecs, la plupart, ils sont plus là, ils ne font plus rien. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire ? Ouais, t'as fait des trucs il y a longtemps, super, mais nous, on est encore là. Et en fait, on se rend compte qu'il y a carrément un jeu de pouvoir là qui est fait, qui est intergénérationnel, en fait. Et qui est encore plus visible là, via cet acteur-là, ou l'autre acteur qui travaille aussi dans cette même, c'est un travail qui est bénévole aussi dans cette association. C'est dur de se dire qu'en fait, si on avait des moyens qu'ils ont, comment on se ferait plaisir. J'adorerais qu'on me donne 800 000 euros pardon, par an à claquer des sous. Quand tu regardes les notions de musique actuelle, de SMAC, de la culture en France étatique de Jack Lang, Mitterrand, quand ça a été créé, les premiers à avoir picoré le gâteau, c'est D et E, d'autres sujets dont j'ai fait intervenir à travers cette communication. Et donc là, on est sur un aspect qui est beaucoup plus une position de, comment dire, une remise en question du pouvoir sur des questions économiques. Là, c'était plus avant sur des systèmes de valeurs, donc ça complète la communication de Laurent. Et du coup, je vais conclure maintenant. Donc la définition de l'objet à travers les caractéristiques du champ. Donc on se rend compte que les positions de chacun sont tenues par des jeux de rapports entre les positions des autres, déterminées par des règles spécifiques de ce qu'on va appeler aujourd'hui un champ, du coup. Il semble donc plus cohérent de ne plus nommer acteurs mais agents, ces individus, puisque de simples interactions, chercher à comprendre ce qui structure ces rapports, c'est mettre en exergue des jeux de pouvoir, mais aussi objectiver les conditions particulières qui régissent ces jeux de pouvoir. Ce sont des stratégies que les agents opèrent qui laissent entrevoir un jeu. Comme tout jeu, il repose sur des règles qui mettent un petit peu en exergue aussi ces formes de stratification sociale. Et qui repose aussi sur ce qu'on pourrait tenter de définir comme étant peut-être un capital punk. Le but de cette méthodologie, qui, vous l'avez vu, qui est assez balbutiement, consiste à objectiver du coup ces rapports de position, mais n'a pas pour volonté de donner une vision exhaustive, mais bel et bien d'être reproductive à chaque scène et à tout moment. Elle a pour vocation de donner une image à un moment donné d'un endroit donné en acceptant les limites de ce terrain. Et pour pouvoir mieux comprendre aussi, après dans un autre temps, les stratégies des carrières et quelle est la logique de la stratégie des carrières que ces individus ont dans le champ. Pour comprendre, enfin à l'arrivée, comment fonctionne le punk et du coup comment on en arrive à avoir un style de musique si particulier ou des styles de musique si particuliers et comment justement il peut naître, justement, et renaître de génération en génération. Et enfin, je vais terminer par une question parce que j'aime bien ça, et donc je vais vous demander de me dire ce que vous en pensez, du coup. Et c'est à travers un autre entretien que j'ai passé avec un élu du ministère, qui est un ancien punk, ou du moins un ancien musicien, qui s'est servi de sa légitimité de musicien pour du coup travailler à la DRAC, etc. C'est lui-même qui m'a parlé de sa carrière. Du coup, qui me dit, oui, maintenant c'est structuré, mais nous, c'était complètement archaïque et empirique. Et du coup, par rapport à cette phrase-là, je vais vous poser cette question-là. Est-ce que cette morale punk d'authenticité et d'autonomie contribue à la structuration d'un champ culturel autonome pour exister selon ses propres conditions, ou à légitimer la place d'agents dans le marché culturel de plus en plus segmenté et concurrentiel et non forcément structuré? Donc voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention.
Bien, merci beaucoup Manu. On voit bien à quel point les sciences sociales nous éclairent parfois sur un objet qu'on aborde parfois avec un peu trop de, comment dire, d'affect. Oui. Je pense que dans les sciences humaines en général, il y aurait une tendance peut-être parfois à trop aborder avec affect un objet qui nous plaît. Et c'est vrai que là, clairement, je trouve que les sciences sociales permettent de mettre au jour des choses qu'on n'ose pas trop aborder. Les rapports de pouvoir, oui, la valeur de pouvoir, je crois, doit intervenir dans la transmission et dans ce dont parlait Laurent tout à l'heure. Alors, bien sûr, rapidement, j'en profite pour remercier donc tous les communicants et je vais ouvrir aux questions. Donc merci à Laurent Grune, merci à Manu Roux et merci aussi à Pierre qui est parti, qui a pris son train. Nous sommes immédiatement sur des questions sur ta communication. Est-ce qu'il y a des interrogations dans la salle? Oui, il y a là-bas Monsieur Nicolas Lahaye qui veut intervenir. Y a-t-il un micro qui tourne?
Une question donc pour Manu, mais peut-être plus une question ouverte parce que c'est un sujet sur lequel on a parlé. Est-ce que tu penses que dans le cadre de groupes encore plus orientés idéologiquement, et tu sais auxquels je fais référence, les extrêmes, hein, que ce soit gauche ou droite, tu subodores que la méthodologie telle que tu nous l'as exposée pourrait être amenée à évoluer? On parlait il y a quelques mois, ouais, des concerts de rock, de rock, etc. Est-ce que la problématique se pose-t-elle de la même façon, ou est-ce qu'il y a forcément peut-être d'autres biais? Alors, c'est pour que ce soit enregistré, en fait, vu qu'on l'a déjà dit.
Ça marche. Voilà. Alors là, du coup, tu l'as compris, je pense. Ma façon d'aborder le problème est très bourdieusienne. Et Bourdieu, c'est vraiment attaché à ce que sa façon d'aborder l'espace social soit reproductible partout. Et j'ai envie de te dire que si je suis cette même logique-là, les rapports de pouvoir sont aussi dans cet espace-là. Mais peut-être même si cet espace-là est moins peut-être poreux, parce que du coup, il est idéologiquement marqué et vachement plus où il y a vachement plus de barrières d'un point de vue peut-être une idéologie dominante pour justement ne pas leur permettre d'avoir une voix et de plus s'éparpiller dans l'espace social, quoi. Mais je pense que les rapports de pouvoir aussi sont omniprésents au regard de cette façon, encore une fois, c'est une façon d'observer l'espace social. Il y en a d'autres. Celle que j'ai choisie, c'est celle-ci parce que ça me paraît le plus cohérent avec ce que j'ai observé. Mais je suis absolument prêt à parler d'épistémologie avec vous et voir s'il y a peut-être d'autres façons d'observer ça, quoi. J'espère que j'ai répondu à ta question.
Alors, moi, je voudrais poser une question sur je suis pas certain d'avoir très bien compris la façon dont vous utilisez structuré et non structuré. Parce que, par exemple, vous citez un acteur qui dit que c'était archaïque et empirique. Ce qui est quand même très étonnant dans l'histoire de la scène punk, c'est qu'elle arrive très vite, quasi immédiatement, avec ses disquaires, ses labels et ses salles de concert. Donc, elle a une forme de structure. De la même manière, un marché non structuré, par exemple, c'est pas un marché sans règles. En général, un marché non structuré, c'est un marché dans lequel il y a plusieurs règles qui sont en compétition, et du coup, ça crée des niches. Donc, il y a des moments, j'ai pas certain d'avoir compris ce que vous vouliez dire par non structuré et structuré. Parce que, voilà. Est-ce que structuré, ça veut dire hiérarchiquement structuré, de manière univoque ou est-ce que ou équipé? Parce que ce qui est étonnant avec les punks, c'est qu'ils ont été équipés très très vite en fait.
Mais en fait, c'est pour ça que j'ai essayé d'expliquer d'où la personne parlait, parce que c'est ça qui est intéressant en fait. Ce qu'elle dit et de la position qu'elle le dit en dit plus sur réellement ce qu'elle dit réellement cette personne là. Donc c'est tout le principe aussi des positions. Ce qui est pas intéressant, c'est ce serait de justement bloquer sur la satisfaction là, mais c'est plutôt de dire que cette personne là a l'impression que le marché serait plus structuré parce que justement son taf là c'est de subventionner des organismes
structurés par l'État en fait.
Exactement, mais lui il le voit que comme ça en fait. Lui il voit pas tout ce qu'il y a des personnes qui jouent dans des squats, de tout cet espace là qui est moins lié avec l'État ou du moins qui travaille moins avec l'État parce que tout simplement ils essayent de ne pas travailler dans le giron et rester le plus indépendant possible quoi.
Bien, nous vous remercions. Je pense qu'il y a d'autres questions. Peut-être vous pourrez continuer de discuter en off. En fait, il se trouve qu'on est très en retard, qu'on a une heure de retard, ce qui n'est pas bien grave en soi, mais on va quand même poursuivre. Je remercie vraiment Manuel Roux, Laurent Grune et bien sûr Pierre Rabot qui n'est pas là.